France Inter.
Bonjour à tous, c'est un grand bouillonnement dans les eaux glacées de l'Arctique. Le Groenland, que souhaiterait annexer Donald Trump, est désormais au cœur de l'attention mondiale. Bonjour Philippe Raltien.
Bonjour.
Alors vous avez enquêté sur les véritables raisons qui poussent le président américain à lorgner sur ce territoire grand comme quatre fois la France. Des raisons économiques mais aussi géostratégiques liées à la Russie et surtout à la Chine.
Secret d'info. Benoît Colomba sur France Inter.
J'ai aussi un message ce soir pour le peuple incroyable du Groenland. Nous soutenons fermement votre droit à déterminer votre propre avenir. Et si vous le souhaitez, nous vous accueillerons au sein des États-Unis d'Amérique. Nous avons besoin du Groenland pour la sécurité nationale, mais aussi pour la sécurité internationale. Et nous travaillons avec toutes les parties concernées pour essayer de l'obtenir. Et je pense que nous allons l'avoir. D'une manière ou d'une autre, nous allons la voir.
Voilà, c'était le 4 mars dernier, dans son discours au Congrès, après sa réélection, le président américain Donald Trump réaffirme sa volonté de prendre le contrôle du Groenland d'une manière ou d'une autre, un sujet qu'il avait déjà évoqué en 2019. Lors de son premier mandat, il avait alors envoyé un tweet avec un photomontage d'une Trump Tower implantée au milieu de la capitale du Groenland, Nuuk. Alors, pourquoi cette fixation sur cette terre glacée? On va tenter de comprendre avec vous, Philippe Raltien. Et pour avoir les idées claires, il faut commencer par bien situer le Groenland sur une carte.
Le Groenland, c'est une île continent de 56 000 habitants à 80% sous la banquise, bordant l'océan Arctique et touchant le Canada à l'ouest. Le Groenland, évangélisé par les Danois au XVIIIe siècle, reste une colonie jusqu'en 1953, avec son drapeau intégré à la couronne danoise qui va lui accorder son autonomie en 1979. Écoutez le chercheur Alexandre Tett, il est coordinateur de l'Observatoire de l'Arctique.
Le Groenland, qui est une petite terre en fait colossale de 2,1 millions de kilomètres carrés, ouvre le continent nord-américain et en fait un prolongement du continent nord-américain. Ce sont pour l'essentiel des pêcheurs, des chasseurs. C'est une société qui est à la fois rurale et côtière, qui s'urbanise progressivement, mais vous n'avez que peut-être 4 ou 5 villes qui font plus de 2000 habitants. Et l'élite groenlandaise, il faut en avoir conscience, c'est peut-être moins de 50 personnes entre le Parlement, le gouvernement, les principaux élus des rares grandes villes. Donc en fait, c'est une grosse commune.
Et même s'il est lié au Danemark, le Groenland ne fait pas formellement partie de l'Union européenne.
Et cette volonté de Donald Trump, on le disait, de tenter de s'approprier le Groenland, en fait, elle vient de loin.
Oui, ça remonte à 1867. Le président Andrew Johnson propose au Danemark de racheter le Groenland. Proposition rejetée. Les États-Unis achètent alors l'Alaska à la Russie. En 1910, nouvelle tentative américaine de récupérer le Groenland, sans succès. Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ils reviennent à la charge, comme le rappelle l'historien des États-Unis André Caspi.
En 1946, le nouveau président des États-Unis, qui est Harry Truman, il a succédé à Roosevelt depuis une bonne année, Harry Truman fait une proposition aux Danois en leur disant « Je suis prêt, moi, président des États-Unis, à acheter le Groenland et à l'acheter très cher puisque c'est 100 millions de dollars en or ».
Oui, donc le Groenland intéresse les États-Unis bien avant Donald Trump parce que, il faut le préciser Philippe, les Américains étaient présents au Groenland pendant la Seconde Guerre mondiale.
Oui, en 1941, les nazis occupent le Danemark. Les Américains installent alors plusieurs bases militaires au Groenland pour le protéger. Et à ce moment-là, ils exploitent une mine contenant de la cryolite, un minerai utilisé dans la fabrication de l'aluminium. Dans le cadre de l'effort de guerre américain, comme le rappelle la chercheuse spécialiste du Groenland, Pia Bayol.
Cette mine a été importante parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, au moment où les États-Unis étaient au Groenland, occupaient le Groenland, ils ont pris en main cette mine et utilisé la cryolite dans leur industrie d'armement. Elle a servi pour la construction des avions notamment. Elle a été stratégique, cette cryolite, elle a été très importante à ce moment-là.
Et cet engagement américain au Groenland, il est allé bien au-delà.
Oui, en développant notamment des projets nucléaires, comme l'explique à nouveau Pia Bayol.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont essayé de mettre en place des centrales nucléaires au Groenland et d'avoir une industrie en fait nucléaire pour leur armée. Donc plusieurs projets ont été montés à Camp Century. Donc il y avait de l'extraction, un peu de transformation d'uranium pour fabriquer des bombes. Mais ils ont aussi mis en place un grand projet qui s'appelait Ice Worm, ver de glace, qui visait en fait à creuser des tunnels sous la calotte groenlandaise. Ça s'est arrêté, mais l'idée était de totalement militariser le territoire et de le nucléariser.
Et ce projet consistait à stocker 600 missiles sous la calotte glaciaire. Il a finalement été arrêté, mais il est quand même allé très loin, comme le souligne l'écrivain français de polar Maud Malot, fin connaisseur du Groenland.
C'est 50-55 hectares, c'est 3 km de base, et c'est des galeries gigantesques, c'est une vraie ville sous terre, il y a 200 personnes seulement à temps plein sur place. Ça se démantèle progressivement à partir de 64, et ça se ferme totalement en 67. Officiellement parce que ils n'avaient pas trop anticipé que la glace, ben ça bougeait, c'est vivant, et que donc ça allait mettre à mal les structures en dur qu'ils ont créées, eux, à l'intérieur de la calotte glaciaire.
Oui, donc ce projet nucléaire sous la glace, il a été abandonné dans les années 60, mais les Américains restent présents au Groenland.
En effet, à travers une base militaire, la base spatiale de Thule, rebaptisée Pitufik par les Américains en 2023, et que le vice-président américain J.D. Vance est d'ailleurs allé visiter le mois dernier. Et il en a profité pour critiquer l'action du Danemark au Groenland.
Oui, ce que n'a d'ailleurs pas apprécié la responsable américaine de la base de Pitufik.
Et elle l'a dit dans un mail envoyé au personnel civil et militaire de la base. Résultat, la semaine dernière, elle a été congédiée par l'administration Trump. Et si on se replonge une nouvelle fois dans l'histoire, cette base de Pitufik, elle a joué un rôle essentiel durant la guerre froide, comme l'explique Alexandre Tett de la Fondation pour la Recherche Stratégique.
Il faut prévoir des sortes de points d'appui logistiques vers l'Europe. En cas de conflit majeur et d'une invasion d'une partie de l'Europe par la Russie, par l'URSS à l'époque, il faut organiser des transferts de troupes, d'avions. Et donc, il fallait une sorte de porte-avions terrestre et qui va être, en quelque sorte, le Groenland. D'où la sanctuarisation de cette base, en fait, qui est américaine depuis maintenant 70 ans et qui n'a cessé de monter en compétence au fil des menaces, et notamment la menace nucléaire.
Et aujourd'hui encore, cette base de Pitufik, elle joue un rôle clé pour Washington.
En effet, c'est la clé de voûte de la défense du territoire nord-américain. Elle est idéalement située près du pôle pour surveiller l'espace aérien et maritime sur le versant arctique russe. En face, 15 000 km de littoral russe qui va depuis le détroit de Bering, où les Américains et les Russes se touchent pratiquement avec l'Alaska, jusqu'à la frontière norvégienne de l'OTAN du côté scandinave.
Et c'est cette position géographique stratégique depuis la base de Pitufik qui intéresse les Américains.
Oui, écoutez à nouveau là-dessus Alexandre Tett.
C'est une base de détection d'alerte précoce de lancement de missiles intercontinentaux balistiques, donc nucléaires a priori, qui vient de l'autre côté, donc de la Russie. Ce qu'on appelle un missile balistique, c'est un missile qui passe par l'espace pour retomber. Donc du coup, il a une trajectoire très particulière et qui fait qu'il n'y a que ce type de très gros missiles qui sont capables d'emporter des ogives nucléaires. Donc du coup, il y a un intérêt à rapprocher les points de détection, en avoir en Alaska, en avoir au Groenland, pour protéger le ciel et l'espace américain de frappes russes.
Donc là, on comprend bien l'intérêt pour les Américains d'être présents au Groenland d'un point de vue militaire. Et est-ce que cette présence militaire, elle peut évoluer ?
Il faut savoir qu'il y a eu jusqu'à 17 bases américaines au Groenland. Aujourd'hui, il n'y en a donc plus qu'une. Mais sur le papier, rien n'interdit aux Américains de monter en puissance, estime encore le chercheur Alexandre Tett.
Il y a des accords de défense qui datent des années 50, qui ont été renouvelés au début des années 2000, qui laissent une attitude assez extraordinaire aux États-Unis pour faire monter ou adapter leurs dispositifs à leur souhait, à la menace stratégique. Et donc notamment, il y a déjà dessiné des zones de défense au Groenland dans lesquelles pourraient se créer de nouvelles bases militaires.
Et tout ça, Philippe, évidemment, ça n'échappe pas à la Russie.
Oui, parce que pour elle aussi, le Grand Nord constitue un espace stratégique. Moscou développe une nouvelle génération de brise-glace à propulsion nucléaire, avec 6 nouvelles bases aériennes équipées de missiles, dont la plus importante est celle de Nagorskoïe, située sur un archipel très proche du Groenland. Écoutez le géographe Jean Radvani. Il est le co-auteur du livre « L'Arctique russe, un nouveau front stratégique ».
Depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, la Russie n'a cessé de moderniser ou de construire de nouvelles bases militaires sur l'ensemble de sa périphérie arctique, y compris des bases très spectaculaires, comme celle qu'on appelle le trèfle, parce qu'elle est en forme de trèfle et elle est bleu-blanc-rouge. Pas bleu-blanc-rouge français, naturellement, bleu-blanc-rouge russe.
Oui, donc les Russes considèrent que l'Arctique, c'est un peu leur chasse gardée.
Oui, et d'ailleurs, symboliquement, en 2007, la Russie a planté son drapeau au fond de l'océan Arctique, un drapeau en titane à 4200 mètres de profondeur. Et ils ont aussi fait valoir leurs arguments auprès des Nations Unies.
Ils ont déposé à deux reprises leurs arguments à la commission spécialisée de l'ONU, qui les a acceptés. Par conséquent, ils considèrent que tous les territoires qui sont entre leur côte et le pôle font partie d'une zone spéciale dans laquelle ils peuvent chercher des gisements sous-marins. Notez bien que les Américains, qui n'ont pas ratifié cette législation de l'ONU, ont fait de même en 2024. Ils ont publié, ça c'est sous Biden, c'est pas Trump, ils ont publié une nouvelle carte des zones d'intérêt maritime américaine et ils ont largement empiété et sur le Mexique et sur le Canada.
Oui, il semble donc y avoir une certaine continuité au sein de l'administration américaine sur le sujet.
Oui, même si avec ses déclarations fracassantes sur le Groenland, Donald Trump met les pieds dans le plat. Des déclarations qui n'ont d'ailleurs pas laissé indifférent le président russe. Écoutez un extrait du discours que Vladimir Poutine a prononcé le 27 mars dernier lors d'une conférence sur l'Arctique organisée dans la ville russe de Mourmansk, tout près de la Norvège.
Les États-Unis ont des projets vraiment sérieux pour prendre le contrôle du Groenland. Et c'est une grave erreur de croire qu'il ne s'agit là que de propos extravagants de la nouvelle administration américaine. Ces projets ont des origines historiques anciennes. Il paraît évident que les États-Unis vont systématiquement faire prévaloir leurs intérêts militaires et géostratégiques en Arctique. Et ce qui nous inquiète aussi, c'est le fait que les pays de l'OTAN désignent de plus en plus l'extrême nord comme un tremplin pour d'éventuels conflits. Ils s'entraînent à déployer des troupes, y compris avec la participation de leurs nouvelles recrues, la Finlande et la Suède. La Russie n'a jamais menacé qui que ce soit dans l'Arctique. Mais nous suivons de près l'évolution de la situation et nous construisons une réponse adéquate par le renforcement des capacités de combat de nos forces armées et la modernisation de nos infrastructures militaires. Nous n'autoriserons aucune atteinte à la souveraineté de notre pays et nous protégerons de manière fiable nos intérêts nationaux.
Donc là, il y a un message très clair de Vladimir Poutine à Donald Trump et aux pays de l'OTAN. Et le fait que le président russe tienne ses propos depuis Mourmansk, Philippe, c'est sans doute pas un hasard.
Oui, et vous allez comprendre pourquoi en écoutant à nouveau le géographe Jean Radvani.
C'est Mourmansk, le grand port arctique russe qui n'est jamais pris par les glaces, qui devient la base principale des sous-marins nucléaires et des brise-glaces nucléaires. Alors, on a montré beaucoup d'images des dépouilles de sous-marins qui rouillent dans l'estuaire de Mourmansk, mais entre-temps, Poutine est passé par là, et il y a plusieurs projets très importants de modernisation des infrastructures de Mourmansk. Il a une vision longue, Poutine. C'est une voie maritime très importante stratégiquement, parce que cette voie-là n'est pas contrôlable facilement par l'OTAN.
Et c'est donc cette route maritime du Nord qui intéresse aussi les Américains.
Oui, et sur ce point, Donald Trump assume de renouer avec une politique expansionniste. Vous vous souvenez que le président américain a également évoqué sa volonté de reprendre le contrôle du canal de Panama ou de faire du Canada le 51e État américain. Eh bien, voilà ce qu'en pense Maud Kessar. Elle travaille à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM.
Les voies maritimes sont particulièrement importante pour les États-Unis qui se construit comme une puissance impériale par les mers. Les États-Unis sont d'abord une puissance maritime. Et c'est pour cela que le canal de Panama est privilégié et c'est pour ça aussi qu'il fait sens. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent car avec la fonte des glaces, les routes du Nord sont aussi attractives que les routes du Sud.
Et en quoi cette fonte des glaces, elle change la donne vis-à-vis du Groenland ?
Mais j'ai posé la question à Olivier Poivre d'Arvor. Il est ambassadeur de France des pôles et des enjeux maritimes. Et il a écrit un roman d'anticipation décrivant le Groenland sans glace en 2048.
Ça sera quoi en 2048 le Groenland ? Aujourd'hui, 80% sont recouverts de glace. Cette couche de glace aura fondu. Évidemment, des opportunités économiques vont se présenter. Un nouveau paysage va se dessiner. Dans toute cette région, c'est ça qui est fascinant. C'est la fonte de la glace va dessiner une route. Et probablement en 2050, en effet, il y aura une partie du commerce maritime qui passera par cette route du Nord, largement contrôlée par le fait même de leur souveraineté sur cette partie de la zone économique par les Russes.
Donc ce qu'on comprend, c'est que le réchauffement climatique rend désormais le Grand Nord potentiellement plus accessible, ce qui change évidemment la donne et ce qui explique aussi cet intérêt autour du Groenland. Et ça, Philippe, on en voit déjà les effets.
Oui, avec le monde entier qui vient voir les icebergs se détacher de la banquise, comme en témoigne Tanguy Sandré de l'Observatoire de l'Arctique.
Il y a déjà beaucoup de bateaux de croisière en fait au Groenland. C'est une activité sur la côte est limitée, mais sur la côte ouest, c'est quand même une grosse activité, le croisiérisme, avec ce tourisme de la dernière chance. En fait, les touristes qui considèrent que c'est un peu la dernière opportunité avant la fin des glaces, qui est prévue pour 2030-2050, on se dit que c'est la dernière chance de voir des ours polaires, de voir de la glace. Et donc, c'est comme ça que c'est vendu, en tout cas par les tour opérateurs.
Mais en attendant, il y a autre chose qui intéresse les Américains.
Oui, et en l'occurrence, les géants de la tech et des GAFAM. Ils entendent eux aussi exploiter cette route la plus courte entre l'Asie et l'Europe pour y faire passer leurs câbles de fibre optique. Écoutez le journaliste Guillaume Pitron, spécialiste de la géopolitique et du numérique.
Le froid est indispensable pour le numérique et pour l'IA. Les serveurs chauffent. À 60 degrés, il faut les refroidir à une température d'environ 25-27 degrés. Et les centres de stockage de données dans lesquels se trouvent les serveurs sont climatisés pour pouvoir permettre un refroidissement des infrastructures et donc leur longévité. Alors, jusqu'à maintenant, le froid, il est produit artificiellement. Et puis, progressivement, certains acteurs de la Silicon Valley sont allés déplacer le nuage, littéralement. C'est-à-dire en allant installer certains serveurs, notamment en Laponie suédoise. Les mineurs de crypto-monnaies sont également intéressés et aller s'installer dans des pays comme l'Islande, par exemple.
Et dans ces conditions, le Groenland peut tout à fait apparaître comme une option intéressante pour installer des data centers, des centres de données pour les GAFAM, estime le géopolitologue Mika Blujon-Mered.
Pourquoi l'Arctique ? C'est parce que, un, vous avez cette électricité abondante, pas chère, mais aussi vous avez donc de l'eau et du frais. C'est-à-dire que pour refroidir vos serveurs, pour refroidir vos calculateurs, etc., vous n'avez même pas besoin de dépenser de l'énergie. Vous prenez juste l'air de l'extérieur. Vous avez évidemment des économies à la clé.
Et pour l'industrie du numérique, cette voie-là devient plus que jamais stratégique.
Inter, secret d'info, Benoît Colomba.
Alors, le Groenland constitue donc un point clé sur un front, celui de l'Arctique devenu stratégique, on l'a bien compris, mais ce qui est également en arrière-plan de tout ça, Philippe Reltien, c'est la question des minerais.
Oui, parce que ce qui fait la richesse du Groenland, c'est son sous-sol, qui contient des hydrocarbures et de nombreux minerais. La navigatrice Isabelle Autissier connaît bien cette région, elle est observatrice au Conseil de l'Arctique.
Le Groenland est un socle primaire qui est absolument bourré, non seulement de pétrole, mais de tous les minerais qu'on utilise dans nos téléphones portables. Plus tous les grands minerais. Quand on se balade le long du Groenland, les montagnes, elles sont vertes de cuivre, elles sont rouges de fer. C'est une mine à soi tout seul.
Avec aussi de l'or, du zinc, du nickel, du graphite, du lithium et de l'uranium. Mais il y a aussi surtout des terres rares, comme le néodyme, qui entre dans la composition des aimants industriels, les systèmes de guidage de fusées et même les moteurs d'avions, comme le souligne le journaliste Guillaume Pitron, auteur du livre « La guerre des métaux rares ».
Il faut savoir qu'un certain nombre de métaux, tels que par exemple l'aluminium, mais également le gallium, le germanium, les terres rares, certains minerais comme le graphite, sont considérés comme étant stratégiques pour l'industrie de défense. Or, les Américains ne produisent pas ou peu de ces matières premières. Ils ont réouvert une mine de terres rares en Californie, mais cette mine, elle extrait des terres rares, mais sans pouvoir les raffiner. Les Américains n'ont pas l'outil de raffinage, ce qui fait qu'ils sont obligés d'envoyer leurs terres rares se faire raffiner en Chine.
Oui, donc du point de vue américain, le Groenland pourrait servir de réserve stratégique, ce qui permettrait aux États-Unis de moins dépendre de la Chine, qui, on le voit bien en ce moment avec les barrières douanières, est considérée par Washington comme l'adversaire numéro un.
En effet, parce que jusqu'à maintenant, les pays occidentaux ont exporté leurs minerais pour le traiter chimiquement en Chine, avec toutes les conséquences environnementales désastreuses. Et malgré sa position dominante, Pékin regarde aussi du côté du Groenland, comme l'explique le géographe et spécialiste de la Chine, Emmanuel Véron.
Pékin a des velléités de contrôle des filières amont-aval de l'ensemble des minerais stratégiques pour son tissu industriel. En 2023, la Chine possède 40% des réserves des métaux stratégiques à l'échelle globale, 69% de la production des métaux stratégiques. Ce qui veut donc dire qu'en visant, élargissant son emprise minière, ou en tout cas géostratégique sur le Groenland, elle pourrait atteindre 70%, 75% à la fois de la production et peut-être 50 ou 60% des réserves mondiales.
Et en 2010, les Chinois ont d'ailleurs fait une proposition à ce sujet au Groenland, rappelle le spécialiste des questions énergétiques Mika Blujon-Mered.
Dès 2010-2011, le gouvernement chinois propose au gouvernement groenlandais la constitution sur le sujet spécifique des terres rares, un cartel des pays producteurs de terres rares sur le même modèle que ce qui existe sur le pétrole ou sur le gaz naturel, par exemple. Il y a une logique évidemment de mainmise diplomatique sur le pays. Et puis, il y a évidemment l'idée de venir commencer à prendre des positions en Europe et dans l'Atlantique Nord.
Et finalement, cette proposition chinoise a été refusée par le gouvernement groenlandais. Les autorités danoises ont aussi empêché les entreprises chinoises d'obtenir les chantiers de construction de 3 aéroports groenlandais.
Et malgré ces déconvenues, jusqu'ici en tout cas avec les Groenlandais, les Chinois considèrent plus que jamais cette zone géographique comme essentielle.
Oui, car c'est au large de la Sibérie, dont les eaux sont exclusivement russes, que passe la route de la soie polaire, ainsi appelé par la Chine parce que c'est le plus court chemin entre le Pacifique et l'Atlantique. 5000 km à vol d'oiseau. Écoutez là-dessus le géographe Emmanuel Véron, chercheur associé à l'école navale.
Il y a fondamentalement une volonté de asseoir le contrôle, ou en tout cas une emprise sur le Groenland, précisément parce que la Chine y voit un intérêt stratégique pour réduire l'espace stratégique américain, ou en tout cas le contester, et en même temps augmenter son propre espace stratégique pour le contrôle des ressources et également son emprise spatiale.
Et cette stratégie chinoise, elle ne date pas d'hier, comme le confirme la navigatrice Isabelle Autissier qui a sillonné le Grand Nord et copublié le livre « Passer par le Nord, la nouvelle route maritime ».
Les Chinois ont beaucoup discuté avec les Islandais pour racheter des ports, parce qu'ils avaient déjà ça en tête depuis très longtemps. Chinois, ils sont un peu plus bêtes que la moyenne, ils regardent les cartes par le pôle Nord. Et donc, ils ont bien vu cette route, et leurs chercheurs leur disent bien que ça va fondre et que ce sera possible un jour. Donc, ils ont commencé à avancer leurs pions, et ils ont commencé à essayer de discuter avec les Islandais, qui ne sont pas super enthousiastes, quand même, pour leur vendre des ports. Le Groenland non plus, et ils y sont allés. Moi, je me souviens, quand je suis allé à Itokotormit, qui est le dernier village au nord de la côte Est, les gens nous disaient « Ah, mais on a vu arriver plein de Chinois, ils sont allés voir, on les a emmenés dans les montagnes, ils ont regardé, etc. » Mais ça, c'était il y a presque 10 ans.
Et 10 ans plus tard, l'intérêt des Chinois pour le Groenland n'a visiblement pas fléchi.
En effet, et ça, l'ambassadeur de France pour les pôles, Olivier Poivre d'Arvor, en a été le témoin. Il siège au nom de la France comme observateur au Conseil de l'Arctique, où la Chine a aussi le statut d'observateur.
J'ai rencontré mon homologue à Pékin plusieurs fois. Se présente comme un pays quasi-arctic country.
Presque arctique.
Oui, c'est une vision de la géographie qui est une vision chinoise. Donc, en effet, tout le monde sait qu'il y a des intérêts économiques importants, qu'il peut y avoir des intérêts stratégiques. Il est connu, il est écrit partout dans les journaux que les Russes et les Chinois ensemble constituent des cohortes navales dans cette région. Mais tout ça n'est pas interdit.
Et ce partenariat entre Moscou et Pékin, il se traduit effectivement en actes, constate Jean Radvani, le co-auteur du livre « L'Arctique russe, un nouveau front stratégique ».
On parle d'un partenariat stratégique, en particulier dans l'Arctique, et a été créé en 2024 une commission mixte russo-chinoise visant à développer tout ce qui concerne la voie maritime du Nord, pour des raisons à la fois financières et technologiques. Ça fait partie des cœurs de la coopération russo-chinoise.
Et les présidents Poutine et Xi Jinping viennent d'annoncer un sommet le mois prochain au cours duquel ils comptent lancer une nouvelle phase de leur coopération.
Bien, alors on va s'arrêter là pour le moment, mais surtout restez avec nous. Dans un instant, on va continuer d'explorer le dessous des cartes en s'intéressant cette fois aux projets miniers qui sont développés au Groenland et vous allez voir à qui ils profitent vraiment. On n'est jamais vraiment déçu à la table de Billie Eilish, The Diner, extrait du dernier album Hit Me Hard and Soft de la jeune Californienne qui s'est plusieurs fois opposée publiquement à Donald Trump.
France Inter, Secret d'info, Benoît Colomba.
Et retour à notre enquête sur la bataille autour du Groenland, dont la position stratégique et les richesses minières suscitent la convoitise, non seulement de Donald Trump, mais aussi de la Russie et de la Chine. Maintenant, si on regarde dans le détail, Philippe Reltien, quels sont les projets d'exploitation de ces ressources naturelles qui sont vraiment sur les rails ?
Bah finalement, il y en a assez peu pour le moment. Concernant d'abord le gaz et le pétrole, écoutez le spécialiste des pôles, Mika Blujon-Mered.
Personne n'a réussi dans les premières explorations qui ont été faites entre 2010 et 2013 à trouver un gisement commercialement exploitable. Donc, plusieurs milliards de dollars ont été investis dans cette exploration. Ça avait fait l'objet à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, de raids, notamment de Greenpeace, en 2010 et 2011, sur ces plateformes pétrolières d'exploration de l'Écossais Cairn, à l'époque. Et fondamentalement, ils n'ont pas réussi à trouver quelque chose de commercialement exploitable. Et ça a été donc un mauvais présage pour beaucoup qui espéraient faire de l'exploration. L'exploration au Groenland pour le pétrole, pour le gaz ensuite, a perdu son intérêt chez les investisseurs. Et de fait, on est passé assez rapidement, à partir de 2013-2014, sur l'exploitation minière.
Et pour l'exploitation minière, alors, qu'est-ce qu'il en est ?
Eh bien, pour l'instant, une seule mine est en activité dans l'ouest du Groenland, exploitée par une société contrôlée par deux fonds, suisses et canadiens, et l'extrait de l'anorthosite, utilisé comme isolant dans les matériaux de construction.
Et puis, concernant cette fois l'uranium, Philippe, qu'on trouve également dans le sous-sol groenlandais, c'est un sujet sensible.
Oui, parce que dès 1995, le gouvernement groenlandais interdit son exploitation. En 2013, cet embargo a été provisoirement levé, mais pas longtemps. À la suite de manifestations et du mouvement non à l'uranium, l'interdiction a été rétablie en 2021. Mais avec tout de même quelques nuances, comme l'explique encore Mika Blujon-Mered.
Il n'y a pas un moratoire complet sur l'uranium, c'est plus subtil que ça. C'est-à-dire que sont interdites les mines d'uranium dans lesquelles vous allez retrouver une concentration minimale d'uranium, c'est-à-dire en l'occurrence au-delà de 100 ppm, c'est-à-dire 100 particules par million. Je sais, c'est technique. Dans le même temps, ça ne ferme pas la porte à potentiellement d'autres mines par ailleurs.
Et c'est comme ça que l'entreprise australienne Greenland Minerals, associée à des actionnaires chinois, a perdu son autorisation d'exploiter le plus gros gisement du Groenland. Et je précise que l'industriel français Orano a suspendu, lui, ses projets à cause de cette interdiction, mais l'entreprise explique qu'elle est toujours prête à discuter avec les autorités groenlandaises.
Voilà donc pour l'uranium. Cela dit, concernant les activités minières, il y a quand même des projets très concrets qui sont en train d'aboutir.
Oui, comme le projet de mine de terres rares au sud du Groenland, près de la commune de Tambriz. C'est une entreprise australienne, Critical Minerals Corporation, qui a obtenu l'autorisation d'exploiter le site. Ce sera une mine à ciel ouvert, proche d'un fjord, avec des minéraliers qui viendront s'amarrer à un dock flottant. Nous avons contacté le PDG de l'entreprise, Tony Sage. Il espère commencer à exploiter la mine dans 2 ans, et il voit grand.
On aura largement assez de minerais. Au début, on est limité à 500 000 tonnes par an, mais ensuite, on ira jusqu'à 3 millions de tonnes. On pourrait fournir pendant 1000 ans avec ce gisement de minerais qui contient 4,7 milliards de tonnes de minerais. Pour vous donner une idée, la plus grosse mine de terres rares aux États-Unis, Mountain Pass, n'a que 2 millions de tonnes exploitables. Nous, je vous le redis, c'est 4 milliards. C'est gigantesque et c'est pour ça qu'en 2019, quand on a été invité à la Maison-Blanche par le département d'État, le président Trump a proposé pour la première fois d'acheter le Groenland.
Et ce qu'il faut dire aussi, Philippe, c'est que cette entreprise australienne, elle est très proche de l'administration américaine.
Oui, et notamment de l'actuel secrétaire au commerce, Howard Lutnick, qui est un financier et qui détient, entre autres, des actions de l'entreprise Critical Minerals Corporation. Mais pour Tony Sage, vous allez l'entendre, ce n'est plus vraiment un problème.
Oui, le secrétaire d'État au commerce a détenu des parts de notre société, et aussi le secrétaire à la défense, Pete Hegseth, mais ils ont dû les revendre. Et d'ailleurs, je retourne les voir bientôt à Washington et aussi au Pentagone. Mais attention, c'est pas avec le secrétaire d'État à la défense que je négocie directement. Ce que veut l'administration américaine, c'est assurer la chaîne d'approvisionnement en métaux critiques. Donc, ils nous mettent en contact avec les fournisseurs clés de la défense, comme Lockheed, Boeing ou Raytheon, et c'est à eux qu'on vend les métaux critiques. Pas au gouvernement américain, qui lui veut garantir cette filière.
Bon, et est-ce que les dernières élections au Groenland, le mois dernier, changent finalement la donne vis-à-vis des Américains ?
À vrai dire, pas vraiment. C'est l'ancien ministre des Ressources minérales, Jens Frederik Nielsen, qui est devenu Premier ministre. Mais d'un gouvernement de coalition résolument indépendantiste et prudent. C'est-à-dire pas pressé de quitter la tutelle danoise. Écoutez comment le patron de l'entreprise australienne qui va exploiter les terres rares du Groenland, lui, voit les choses.
Ce qui tombe bien pour M. Trump, c'est que le nouveau gouvernement groenlandais veut l'indépendance. Ils l'ont toujours voulu, mais comme c'est le Danemark qui paye, ils restent dépendants de leur aide financière. Donc une fois indépendants, ils pourront faire un deal. Ils ne veulent pas être annexés par les États-Unis, mais ils pourraient concéder leurs terres en leasing, en location. Pour, et c'est l'idée de Trump, construire un port dans le nord, une base nautique dans le sud ou peut-être agrandir la base spatiale américaine au Groenland. Et au lieu de toucher 600 millions de dollars de subventions des Danois, il pourrait gagner 3 ou 4 milliards de dollars par an des États-Unis, de quoi financer leur indépendance. Sans compter les royalties que nous leur verserons dès que la mine tournera.
once we get up and running.
Donc les États-Unis fassent un deal avec le Groenland, mais c'est pas forcément ce que souhaite l'ensemble des Groenlandais.
Loin de là. Écoutez la voix de l'une des figures intellectuelles groenlandaises, l'écrivain Joakka Lubberts, qui était de passage à Paris la semaine dernière à l'occasion du Salon du Livre. Selon le New York Times, pour s'approprier le Groenland, Donald Trump envisage de verser 10 000 dollars par an à chaque Groenlandais. Et voici la réponse à notre micro de Joakka Lubberts.
Il veut plus de terres, il veut contrôler le monde entier. Je ne crois pas que ce soit la bonne façon de s'adresser aux amis et aux partenaires commerciaux. Alors, non merci, Monsieur Trump.
Cela dit, dans cette affaire, les Groenlandais ne rejettent pas l'idée d'un accord avec les Américains, mais pas à n'importe quel prix, estime le chercheur Alexandre Tett, coordinateur de l'Observatoire de l'Arctique.
Le ministre Nielsen, début avril, donnait un interview reflétant, a priori, l'opinion très largement majoritaire des Groenlandais. Le Groenland ne fera jamais partie des États-Unis. Nous ne serons jamais à vendre. Nous ne serons jamais américains. De toute façon, pour les Groenlandais, évidemment que les États-Unis seront un partenaire de leur indépendance. C'était déjà évident dans leur esprit. Donc la violence du procédé les a choqués, mais ils réaffirment leur volonté de coopérer, que ce soit sur le plan sécuritaire ou sur le plan économique avec les États-Unis. L'indépendance groenlandaise passera sans doute par des partenariats variés avec l'Union européenne, mais sans doute en premier lieu avec les États-Unis.
Et je précise que depuis 2009, l'indépendance du Groenland peut se décider n'importe quand par un simple vote par référendum.
Merci Philippe Reltien pour cette enquête que vous pouvez retrouver en longueur sur notre site et sur l'appli Radio France avec les dessins de Nicolas De Witt de la cellule Investigation. Et si vous voulez nous transmettre des informations de manière sécurisée, vous pouvez nous envoyer un message à l'adresse suivante alerte.radiofrance.fr. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Raphaël Canezan et réalisée par Christophe Imbert. À la programmation musicale, il y avait Jean-Baptiste Audibert et à la technique, Florian Dittre. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve samedi prochain.